On raconte, entre beaucoup d'autres choses, qu'un jour où le calife Haroun al-Rachid se tenait dans sa salle du trône, son épouse Zobeïda est entrée, accompagnée d'un jeune esclave qui portait à deux mains une couronne d'or rouge sertie d'une gemme d'une grande beauté. Après les compliments d'usage, Zobeïda a montré cette couronne au calife, cette couronne qu'il connaissait. En lui montrant que malgré ses merveilleuses qualités, elle n'était pas terminée. Il manquait au sommet une pierre digne du reste. Et elle a légèrement suggéré qu'un diamant, un rubis, gros comme le poing, ferait bien son affaire. Le calife a regardé son entourage. Il a ordonné qu'on lui rapporte un rubis, gros comme le poing. J'écoute et j'obéis, ils sont partis. Le trésorier a été cherché dans les trésors du calife. Il n'a pas trouvé de rubis gros comme le poing. Les émirs, les chambellans, les vizirs ont farfouillé fiévreusement dans les trésors de leurs épouses. Il n'y avait pas de rubis gros comme le poing. Ils ont consulté les plus grands orfèvres de Bagdad et tous les orfèvres les plus grands, à l'unanimité, ont répondu « Un rubis gros comme le poing ?» Mais que le calife abandonne ses recherches. Seul Abou Mohamed les Osmous de Basra pourra posséder une pierre semblable. Qui ? Abou Mohamed les Osmous de Basra. Abou Mohamed les Osmous de Basra, lui seul possède des pierres de cette taille. Le calife a froncé le sourcil. Il a regardé Djafar, son vizir, qui a regardé Mansrour, le porte-glaive. J'écoute et j'obéis, je vais, je viens, il est parti. À 800 kilomètres, à Basra, en marche forcée, à dos de chameaux de course. Il est arrivé à Basra, il a demandé la maison d'Abou Mohamed les Osmous. Et la foule entière qui était là l'a accompagné jusqu'au plus beau palais de la ville. Au premier coup de heurtoir, la porte s'est ouverte sur une nuée de jeunes esclaves richement habillés. Et derrière eux se tenait le maître de maison, Abou Mohamed les Osmous, un jeune homme charmant. Mansrour a expliqué l'objet de sa visite, l'impatience du calife. Abou Mohamed les Osmous s'est incliné. Je suis l'esclave du calife. Il veut mes pierres. J'en suis très honoré. Je vais préparer mes coffres pour lui. Et vous, entrez, installez-vous, reposez-vous, rafraîchissez-vous. Et Mansrour et son escorte ont été reçus comme dans un rêve. Même dans le palais du calife, il n'y avait pas un spectacle pareil. Abou Mohamed les Osmous étant prêt, sans escale et sans détour, avec les chameaux chargés de coffres, ils sont retournés à Bagdad. Et aussitôt entrés dans la ville, on a présenté Abou Mohamed les Osmous au calife. Il s'est présenté avec grâce et il a parlé avec délicatesse. Un langage fleuri pour faire son compliment. Et à la fin, il a demandé au calife la permission de faire apporter les coffres dans cette salle de réception. Et le calife a dit qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. Et les coffres ont été amenés sur les tapis. Abou Mohamed les Osmous a soulevé les couvercles et il a sorti des arbres d'or aux feuilles d'émeraude qui portaient dans leurs branches des rubis, des perles, des topazes, des saphirs, des émeraudes qui avaient la taille d'une grenade, d'une pomme, d'une orange,
d'une grappe de raisin. Il a sorti aussi un pavillon de jardin d'ivoire et d'or et tissé de soie et d'or, où étaient incrustés des animaux familiers, des oiseaux prêts à s'envoler dans les gemmes les plus rares. Quand tout a été disposé en vrac sur le tapis, Abou Mohamed s'est reculé de 3 pas. Il a fait un petit geste du sourcil et tout s'est rangé harmonieusement. Ensuite, il a émis un petit sifflement et les oiseaux se sont mis à chanter, harmonieusement. Et puis, tout s'est arrêté instantanément. Alors le calife lui a dit « Qui es-tu ? D'où te vient ta fortune ?» Et Abou Mohamed les Osmo a dit que son histoire était si extraordinaire que si on l'écrivait avec la pointe d'une aiguille dans le globe interne de l'œil, celui qui la lirait en tirerait un grand enseignement. Alors le calife l'a fait asseoir près de lui. Et il a commencé son histoire. Du plus loin dans sa mémoire, on l'avait toujours appelé les Osmous. Sa mère, le matin, le sortait près de la porte, sous un buisson maigre, et il restait là toute la journée. Le soleil avait beau tourner, il ne bougeait pas. Les mouches avaient beau venir sur son visage, il ne le chassait pas. Les fourmis pouvaient venir le piquer, il ne les chassait pas. Il ne bougeait pas. Il ne faisait rien. Un paquet mou, il était. Alors les voisins autour, à le voir si mou, ils se sont dit qu'il n'avait pas de squelette. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé les os mous. Ça lui est resté. Son père est mort quand il avait 15 ans. Et sa mère a dû travailler chez les autres, laver le linge, et pour les faire vivre tous les deux. Mais lui, il n'a rien changé. Pourtant, sa mère lui disait de temps en temps, « Mais petit, lève-toi, tu es grand maintenant, il faut faire quelque chose, il faut travailler, nous sommes si pauvres. » Mais lui, il continuait à ronfler. Dans un grognement, il répondait parfois, « Dieu aime les petits oiseaux, il me nourrira. » Et sa mère lui répondait, « Petit, tu as sûrement raison. » Et la vie continuait. Or, un jour, la mère est rentrée impatiente. « Lève-toi, 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 petit !» Notre voisin, le marchand, part en Chine. « Alors, lève-toi. J'ai réussi à économiser 5 pièces d'argent. Alors, va lui porter. Demande-lui de nous acheter quelque chose que nous revendrons avec bénéfice pour pouvoir vivre. » Il faut que ce soit toi qui y ailles. Tu es l'homme de la famille. Moi, je ne suis qu'une femme, je ne peux pas. Et comme je grognais, comme Abou Mohamed les Osmous faisait le mort, elle s'est fâchée. Elle a pris une voix qu'il n'avait jamais entendue. Elle a dit, allez, lève-toi, lève-toi, et fais ce que je te conseille. Parce que je te préviens, si tu ne vas pas voir notre voisin et lui demander de nous acheter quelque chose, jamais plus je ne m'occuperai de toi. Je ne te donnerai plus à boire, je ne te donnerai plus à manger, et tu mourras d'inanition. » Et en l'entendant avec une telle violence, j'ai pensé qu'elle mettrait sa promesse à exécution. Alors j'ai grogné quelque chose qui voulait dire aide-moi. Elle m'a tiré. Elle a essayé de me lever. Elle a essayé de me passer une manche. Je retombais, elle tirait, et elle me tendait les babouches, mais je n'essayais même pas de mettre le pied dedans. Et puis, il a fallu mettre debout, étirer, pousser, tomber. Je gémissais comme un mourant. Et puis, elle a poussé pour le mettre debout. Et puis, elle a fini par amener les ossements jusqu'à la porte. Et quand les voisins ont vu Abou Mohamed, les ossements, debout devant la porte, tout le monde a crié « Les ossements est debout ! Les ossements est debout !» Les marchands ont fermé leur boutique, tout le monde l'a accompagné, on l'a porté, tiré, poussé jusqu'au marchand, jusqu'au bord de la mer. Et là, il a bredouillé ce que sa mère lui avait dit. Il a donné les 5 pièces d'argent, il a dit aller en Chine, rapporter quelque chose. Et le marchand s'est tourné vers sa mère. Le marchand lui a dit, j'ai connu ton mari, c'était un brave homme. Et je sais ton malheur avec un fils pareil. Alors, je te promets, je t'aiderai, je te promets de ramener quelque chose qui te permettra de vivre. Et la mère l'a remercié avec effusion. Le marchand est parti en Chine avec bon vent, ciel sans nuages. Il est arrivé en Chine, il a fait ce que font tous les marchands, il a acheté, il a vendu, il a acheté. Et puis, il a repris le chemin de Basra, toujours avec un ciel sans nuages. Et au bout de 10 jours, il faut retourner en Chine, il faut retourner, j'ai oublié ma promesse, j'ai oublié d'acheter quelque chose pour les osmous, il faut retourner. Les collègues marchands qui étaient avec lui lui ont dit, tu n'y penses pas. Alors que nous avons bon vent, si nous allons en Chine, nous allons essuyer une tempête. Non. Et puis pour les osmous, ça ne vaut rien. Non. Il t'a donné 5 pièces d'argent. Eh bien, nous donnerons chacun 5 pièces d'or. Il aura fait un bénéfice. Et le marchand de Basra a mis dans une bourse 30 pièces d'or. Le voyage a continué. Un jour, il y a une escale. Et le marchand de Basra est descendu sur le port. Il a vu un homme entouré de singes. Cet homme vendait des singes jolis, qui faisaient des tours, qui étaient très amusants. Et le marchand a remarqué parmi ces jolis petits singes un vilain petit avorton, galeux, teigneux, lamentable. Et pendant que l'homme avait le dos tourné, les jolis petits singes le pinçaient, le griffaient et lui pissaient dessus. Alors le marchand, qui avait bon cœur, a demandé le prix de ce petit singe. « Tu n'y penses pas, il est malade. Achète plutôt les autres. » « Non, celui-là. Fais ton prix. » Et le marchand a mis la main dans sa poche et a retiré les 5 pièces d'argent d'Abou Mohamed. « Ça te suffit ?» Et il a acheté le petit singe. Il est reparti avec le petit singe sur son dos. Arrivé au bateau, au moment d'embarquer, le singe a quitté son épaule, a sauté dans la mer. Voilà la fortune des osmous qui se noient. Peut-être que le petit singe était trop malheureux, il s'est suicidé. Mais aussitôt, le petit singe est sorti de la mer, ses petites mains remplies de perles fines. Il les a données au marchand. Et il a replongé, il en a rapporté, il a replongé, il en a rapporté. Il a même demandé au marchand de lui accrocher un petit sac au cou. Et il a replongé, il est revenu rapporter ce petit sac rempli de perles. C'était bien pour les osmous. Et puis il est rentré à Basra. Arrivé à Basra, toute la foule est venue prévenir les osmous. Les osmous n'ont pas bougé, ils ronflaient toujours. C'est le marchand lui-même qui est venu à la maison apporter la bourse avec les 30 pièces d'or, le petit singe et le sac de perles. Et là, quand Abou Mohamed les osmous a senti le sac, a entendu le bruit des perles à l'intérieur, a ouvert le sac, il a vu la nacre, la beauté des perles, il a caressé sa joue avec la nacre. Il a senti l'âme des perles et il a cessé d'être les osmous. Il a étalé les perles, il les a caressées, il les a triées, il les a calibrées. Et le lendemain, il s'est levé, il s'est habillé, il est allé au bazar et il a appris le métier de marchand de perles. Puis il a acheté une boutique, il a vendu des perles, il en a acheté. Il est devenu un marchand respectable et toujours près de lui, vivait le singe, qui partageait sa vie, qui mangeait avec lui, qui buvait avec lui, qui dormait près de lui. Et un jour, le singe lui a fait signe. Il voulait qu'Abou Mohamed lui apporte du papier, un calame et de l'encre. Et Abou Mohamed a obéi. Il a rapporté ce qu'il demandait. Et le singe s'est mis à écrire. Abou Mohamed, va me chercher un coq blanc et rejoins-moi dans le jardin. Peut-être même a-t-il signé le singe. Et Abou Mohamed a obéi. Il est allé chercher le coq blanc et il l'a rapporté au singe, derrière la maison, dans le jardin. Il a vu le singe qui tenait un serpent noir. Il lui a donné le coq blanc. Et le singe a lâché le serpent noir sur le coq blanc. Et le singe a essayé d'étouffer le coq, de l'enrouler, de l'enserrer. Et le serpent, le coq l'a piqué, piqué, déchiqueté, tronçonné. Et tous deux sont morts, étouffés, en tronçon. Alors le singe a pris le coq. Il a arraché les plumes blanches. Il les a plantées dans le jardin et arrosées du sang du serpent. Et plumes de coq et sang de serpent, et plumes de coq et sang de serpent, et plumes de coq et sang de serpent. Puis, quand tout a été piqué en terre, il a reculé de 3 pas. Il a fait un geste. Et toutes les plumes du coq sont devenues les arbres d'or aux feuilles d'émeraude que le calife avait vu tout à l'heure, avec les fruits de rubis, de topazes, de perles, et de saphirs et d'émeraude. Et le singe a souri à Abou Mohamed. Il a tapé du pied. Il s'est envolé, comme en lui disant au revoir. Il s'est envolé dans le ciel, très haut. Et il est devenu un génie ailé. Abou Mohamed et le calife, en entendant cette histoire, a regardé Djafar, son vizir. Il lui a ordonné de faire écrire et de calligraphier cette histoire, pour qu'elle reste enfermée dans l'armoire des gestes et des hauts faits du règne du calife. C'est comme ça qu'elle est venue jusqu'à nous.